Aujourd'hui, m'avez-vous dit, c'est la question de la prière dans la divine volonté que vous allez aborder.
On commence par, oui, effectivement, un texte écrit le 6 décembre 1932. Alors, bien sûr, resituer toujours les textes dans ce que nous dit la Sainte Écriture, et je me référerai donc à deux passages. Un premier passage d'abord, qui est la prière testamentaire de Jésus dans l'Évangile de Jean, chapitre 17, versets 3 et versets 22 et 23, quand Jésus parle à son Père en souhaitant, « Père, je te prie pour eux qu'ils soient un avec moi comme nous, nous sommes un, qu'ils soient un comme toi, tu es un avec moi. » Donc, cette volonté de Jésus de appeler son Père pour que la créature, la création qui est le chef-d'œuvre de l'œuvre de Dieu, la création humaine, ne soit pas simplement une création marquée par la divinité, mais une créature en communion avec son Créateur, c'est-à-dire une créature qui participe pleinement de la vie trinitaire. Jésus dira à un autre passage dans ce même évangile au chapitre 15, « Père, comme tu aimes qu'il soit avec nous de la même manière que nous nous sommes, comme qu'il soit ensemble avec nous, tourné vers toi. » Je reprendrai tout à l'heure, avant la fin de l'émission, je vous redonnerai exactement la référence, parce que là je la cite de mémoire, mais l'évangile de Jean peut-être sera l'évangile qui va nous introduire le plus dans l'intention de Jésus sur cette volonté d'introduire l'homme dans la vie trinitaire. Et qu'il soit en nous, dit Jésus. Nous viendrons à lui, voilà. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure en lui. C'est encore un appel de Jésus, un rappel que la créature est appelée à vivre de cette même Trinité, vivre unie. Donc, c'est vivre comme Dieu. Si nous restons sur ces paroles-là, c'est vivre comme Dieu, c'est pas vivre écarté, à part. Donc, c'est vivre non pas par nature, si on reste sur le plan strictement théologique, comme Jésus, par nature et Dieu, mais par grâce. Comme le dit très bien la lettre de Saint Pierre. Donc, il nous a obtenu de participer par grâce à sa nature divine. Donc, et resituer la vocation humaine, l'appel divin qui repose sur chacun d'entre nous. Et ça change tout. Ça change tout parce que rappeler à quel degré l'homme doit aller, peut aller dans le cœur de Dieu, dans la divinité, dans la vie trinitaire, c'est élever la nature humaine et l'élever à ce qu'elle est réellement, et lui redonner vraiment, la reconnaître dans sa vraie dignité de créature créée à l'image et à la ressemblance, même si cette ressemblance a été abîmée, souillée. Donc, nous savons par l'Écriture, depuis la rédemption, la mort et la résurrection du Christ, ce que Dieu a réservé, comme dit saint Paul, ce qu'il a réservé à ceux qu'il a choisis, qu'il a aimés. Donc, un passage extraordinaire, ces paroles, nous pourrions reciter à la fois saint Jean, saint Paul, qui marquent de ce trésor caché, effectivement, et que Dieu révèle. Que Dieu veut nous révéler. Alors, quand nous avons ces quelques bases, on va dire, ces quelques éléments à la fois de compréhension biblique et théologique, on peut aborder, comment dire, plus paisiblement les écrits de Luisa Picaretta et de reconnaître ce que dit Jésus. Évidemment, une lecture comme ça, et je le dis avec aussi beaucoup de précaution, une lecture un peu brutale, un peu immédiate, sans fondement de cette manière-là, peut être risquée. Comment, quel langage, comment, parce que ce sont des paroles très fortes. Alors, justement, dans ce petit topo aujourd'hui, je voudrais évoquer comment Jésus va enseigner la prière chez Louisa, à travers Louisa, comment Jésus va nous enseigner à prier, à nous unir avec lui. Et pour cela, il y a un premier passage assez fort, assez beau, assez complet, le 6 décembre 1932. Nous savons qu'il y aura encore, et Louisa va écrire jusqu'en 1936 à peu près, donc elle est là déjà à une grande maturité humaine, spirituelle, elle est capable de comprendre et d'écrire tout ce qu'elle reçoit. Voilà ce que elle écrit. Jésus lui parle. Lorsque tu m'aimes, lorsque tu m'adores, lorsque tu me bénis et me remercies, tu accordes un grand chant à toutes les choses créées pour répéter ton acte, si bien que le ciel et la terre, le soleil et le vent, les mers et les rivières, les plantes et les fleurs disent tous en chœur: nous t'aimons, nous t'adorons, nous te prions. Premier point, qu'est-ce que Jésus enseigne? Qu'est-ce qu'il révèle de la prière? Ou qu'est-ce qu'il révèle de nouveau? De nouveau, je dirais, c'est cette communion immédiate avec la création qui elle-même, puisqu'elle est marquée par la divinité, donc elle est vivante de Dieu qui vit en elle, la création qui est comme un écho de ce que la créature dit. C'est-à-dire que notre louange, notre adoration, notre remerciement à Dieu à travers le langage que nous donne le ciel, la terre, le soleil, le vent, les mers, les rivières, les plantes, les fleurs. Ce langage d'amour que nous avons, qui est notre louange, fait en écho que la création elle-même, par vivante de Dieu, répond: nous t'aimons, nous t'adorons, nous te prions. Jésus dit, c'est comme un écho qui résonne partout et en tout. Alors, à ceci, il y a deux choses qui sont intéressantes et qu'on peut comprendre et retenir. La première, c'est l'effet de la créature, la puissance divine, la puissance de la voix de la créature sur la création. Puisque c'est nous-mêmes, la créature, dans sa louange, dans son adoration de Dieu à travers la création, qui ouvre ce champ d'écho, de réponse, de louange, d'adoration. Et la deuxième chose que je vois aussi, et que j'ai commencé par là, très lumineuse, c'est la communion. Prier, c'est communier, au sens fort du mot, au sens premier du mot, c'est communier à Dieu à travers tout le créé. C'est communier à Dieu à travers le chant des oiseaux, le ronflement, le murmure de la brise, de la mer qui grogne, des montagnes, dans le qui, comme dit le psaume, à travers le vent qui s'infiltre. C'est une communion, mais nous ne sommes pas en train de communier à quelque chose qui est tendre, doux, une brise. Nous sommes en relation avec le divin et avec Dieu, avec le Christ rédempteur, avec le Christ mort et ressuscité sur la croix. Et je crois que c'est immense, c'est incroyable, une prière dite très simple, d'un regard jeté vers le ciel, comme disait Sainte Thérèse, mais quand il est comme ça, regardant le ciel pour adorer, vénérer, bénir et se perdre dans le bleu de l'azur, c'est appeler Dieu, mais c'est aussi créer un écho. La créature a donc un pouvoir divin, un pouvoir divin qui fait, alors bon, ça c'est des mots que je vais employer, ils vont pas être extrêmement justes, mais qui met en réaction autour d'elle ce qui vit. Pourquoi? Tout simplement parce que nous avons été créés par Dieu, que nous ne sommes pas simplement un amalgame, pardonnez-moi, de chair, d'os, de muscles, de sang, d'eau. Nous sommes des êtres divins. Voilà. C'est toujours risqué de dire cette parole, mais je la situe bien dans le cadre chrétien, catholique dans lequel nous sommes, parce qu'aujourd'hui, évidemment, tout est récupéré dès qu'on parle de divin. Mais parce que ça a été la volonté de Dieu. Et je rappelle cette parole de Pierre, et il nous fait entrer dans sa divinité par grâce, par grâce. Et avec force, je continue la lecture du 6 décembre 1932. Et avec force, dit la parole. Investie qu'elle possède, ma volonté absorbe cet écho et fait en sorte que toute chose reprend l'acte. Toute chose reprend l'acte que la créature a accompli dans ma volonté. Et alors, quelle douce surprise! Quel merveilleux enchantement! Qu'un acte puisse régner sur toute chose et faire que tout le répète. Évidemment, parce que la créature reprend ce pourquoi elle était créée. Régner, on pourrait le dire en termes de participer à tout le créé, mais elle en est le chef-d'œuvre, elle en est le prince, le roi, elle est au-dessus de la création, donc c'est un règne d'adoration, de louange, d'amour. Le petit atome qui entre dans notre vouloir est rendu puissant. Surtout, et nourrit doucement tout et chacun de son acte pour que son créateur soit aimé. C'est la fin de tout. La fin de notre vie de prière, notre louange et notre adoration, je le répète, pour que son créateur soit aimé. Dieu nous crée, nous façonne, envoie sur nous son souffle et son haleine de vie, fait répandre sur nous son Esprit Saint pour que nous soyons capables d'un écho d'amour, de louange et d'adoration, de le reconnaître d'une part, de l'adorer, de le louer et de le faire connaître et de le faire aimer. Par conséquent, notre être suprême ressent que la créature qui entre dans notre vouloir peut mouvoir toute chose. Merveilleux passage du 6 décembre 1932 que je vous laisse à votre méditation pour le reprendre. Il peut vraiment nous aider à approfondir notre méditation sur la prière. Le 12 octobre 1929, Jésus parle aussi et nous éclaire encore davantage sur cette intimité avec Dieu, cette vie intime, trinitaire, qui est notre lot, qui est notre prière. 12 octobre 1922. Ma fille, chaque fois que tu fais ta ronde, hein, les rondes, justement, vont être le cœur de de la prière enseignée par Jésus à Louisa, hein, qui est, je dirais, qui est ce dialogue, comment le traduire aujourd'hui, hein, ce dialogue continu, en continu. Malheureusement, il est interrompu parce que nous ne savons pas prier en continu, mais c'est quand même notre vocation, comme au ciel. Donc, ce dialogue qui va faire que la créature, justement, entre vers son Dieu, provoque cet écho de Dieu qui lui répond. Et on entre dans cette ronde d'amour trinitaire où la prière devient un dialogue continu. Quand tu fais ta ronde dans nos œuvres et que tu joins à ces actes, nos œuvres, donc les actes de la création, les actes de la rédemption, hein, les œuvres de Jésus, traverser les œuvres de Jésus, ces actes accomplis par mon fiat dans la création et la rédemption, pour nous les offrir, parce que faisons-nous? Nous revivons, nous évoquons, nous entrons dans l'avènement de Jésus, dans sa naissance, sa vie publique, sa prédication, sa miséricorde exercée sur les pauvres, et nous présentons à Dieu la vie même de son Fils, cette vie sainte qui est une réparation de tous les actes pécamineux qui ont été faits. C'est une offrande. Nous offrons au Père continuellement la vie même de Jésus, comme ce qui est fait dans l'Eucharistie. C'est quand même immense, incroyable. Nous ne soupçonnons pas ce qu'il y a dans la prière de chacun, même pauvre, même, je dirais, j'oserais dire parfois distraite, ou parfois même la prière est un combat avec les distractions. Et pourtant, cette intention que vous et moi nous avons, cette première intention qui a été vraiment de se tourner vers le Seigneur, de nous unir avec lui. Et là, Jésus dit, tu fais un pas vers le ciel et ma divine volonté fait un pas vers la terre. J'aime beaucoup ce mouvement. Tu fais un pas vers le ciel et ma divine volonté fait un pas vers la terre. Quelle condescendance de Dieu! Quelle véritable image de la paternité qui se met à genoux pour être à la hauteur de son fils, de sa fille, et lui tenir la main, et la regarder dans les yeux et l'aimer. Alors que toi, tu montes, dit-il, elle descend. Et tout en demeurant immense, elle se fait petite et s'enferme en ton âme pour répéter tes actes, tes offrandes et tes prières avec toi. Et nous sentons notre divin vouloir prier en toi. Ça rejoint tout à fait la prière de Jésus. Et nous sentons ton divin vouloir prier en toi. C'est l'union de volonté. C'est Jésus qui prie en nous et nous qui prions en Jésus.
Père Jean-Jacques Dutheil, nous revoici à l'antenne avec la question d'une auditrice. Elle vous demande comment répondre aux adeptes du Nouvel Âge qui se prennent pour des êtres divins sans croire en Dieu ni dans le Seigneur Jésus et sans non plus se reconnaître pécheurs. C'est très dangereux, dit-elle. Comment répondre clairement et comment les interpeller?
Alors, bon, ben, effectivement, comment dire, le courant du New Age et la vision de la divinité, elle est très fréquente aujourd'hui. Alors, la réponse se situe sur deux points fondamentaux qu'il faut bien marquer. Deux points, je dirais, qui structurent notre appartenance, nous et ce que nous sommes et ce que nous vivons. Le premier point, la première réalité qui est imparable, hein, pour nous, d'abord, c'est donc se situer par rapport à cette croyance d'une divinité floue qui n'a pas de repère. Donc pour nous, c'est l'incarnation. Le premier point d'appui et le premier rocher, c'est l'incarnation, c'est-à-dire notre foi au Christ qui fait que en lui, Comme dit l'apôtre Paul, nous avons l'être et l'existence. En lui, nous sommes créés. Et donc, face à cette théorie, justement, le dialogue est très vite limité parce que nous devons tout de suite nous situer par rapport au fait que la vie divine, pour nous, est un appel voulu par Dieu et donné par son Fils Jésus-Christ, mort et ressuscité sur la croix. Voilà. Ça, c'est le premier point d'appui qui nous permet de répondre, d'avoir un premier élément de réponse. Ensuite, le deuxième. Alors, d'abord, je ne suis pas compétent pour me situer et je n'ai pas assez lu et pratiqué, pour, je veux dire, renseigné sur ce champ énorme-là comment dire, du New Age. Mais le deuxième point d'appui, après l'incarnation, après cette vision du Christ, c'est pour nous, je dirais, et particulièrement l'Eucharistie, la vie sacramentelle, c'est-à-dire cette consécration dans laquelle le Christ se continue, Dieu se continue à travers nous, par le biais, par cette invention divine, ce choix divin de se laisser consumer à travers l'hostie, qui est pleinement, je le rappelle, comme on le dit en liturgie, en théologie, corps, âme et sang du Christ. Corps, âme et sang du Christ. Donc l'Eucharistie, la vie sacramentelle donnée, est une réponse face à ces courants qui sont de plus en plus fréquents maintenant de recherche de divinité. Voilà ce que je peux dire. Pour l'instant, sans pouvoir en dire plus, mais je me situer moi beaucoup plus davantage sur ce que nous sommes par rapport à ces courants plus ou moins flous qui, je dirais, nous entourent et nous proposent différentes solutions.
Chers auditeurs, chères
Voilà.
auditrices qui nous avez envoyé ce message, j'espère que la réponse vous satisfait. Père Jean-Jacques Dutheine, je vous laisse poursuivre le cours de votre émission.
Nous parlions justement de nous unir à Dieu, de la prière. Et en citant cette lettre du 12 octobre 1929, dans laquelle Louisa évoque, on va dire, le comment ça se passe. Et en fait, c'est une des rares pages où Jésus lui répond et lui montre ce va-et-vient. Ça nous fait penser, vous vous souvenez, dans le livre de la Genèse, à l'échelle de Jacob, par exemple, cette vision qu'il a, où il voit des anges descendre et monter, comme ce lien entre le ciel et la terre. Et ça nous fait penser à ces propos, ces paroles de l'Apocalypse, au chapitre 20 et 22, où il est question de cette vision du ciel. Cette vision lumineuse d'une fécondité continue. Et là, Jésus lui dit donc par les rondes, c'est-à-dire par notre prière aujourd'hui de contemplation, d'adoration de Dieu à travers toute la création, la rédemption, c'est pour nous une offrande, et tu fais un pas vers le ciel, et ma divine volonté, dit Jésus, c'est-à-dire vraiment le moteur, l'agir, la puissance d'amour de Dieu fait un pas vers la terre. Ainsi, alors que tu montes, elle descend, et tout en demeurant immense, elle se fait petite et s'enferme en ton âme pour répéter tes actes, tes offrandes et tes prières avec toi. C'est très beau parce que en descendant, elle s'enferme en ton âme. Donc ça, on retrouve la parole de Jésus, la parole dans l'évangile de Jean. Et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure. Elle s'enferme en ton âme, mais ce n'est pas une présence inactive pour répéter tes actes, tes offrandes et tes prières avec toi. Nous rappelons les paroles de cette sainte carmélite qui disait: Je veux être une continuité, elle ose dire même une continuité, une incarnation de ton œuvre, de tes pas, de ta vie, de ta divinité, de ton humanité, pour ta gloire, pour répéter tes actes avec toi. Nos actes, les actes, c'est-à-dire, puisque la vie est faite d'actes, de s'asseoir, de se lever, marcher, nos actes de pensée, nos actes psychologiques, toute la vie est faite d'actes avec Dieu, pour Dieu, en Dieu. Très beau passage. Très beau passage parce qu'il confirme cette intuition de ce que de ce Dieu qui vient agir avec nous. Il confirme l'incarnation du Christ qui agit, qui a souhaité participer pleinement à notre vie. Je dirais que cette réflexion nous amène à, comment dire, à réaliser également cette volonté divine de ne pas nous abandonner, de ne pas nous laisser, de cette volonté divine de vouloir nous faire participer au salut de toute l'humanité, à l'élévation du genre humain dans un monde où, comment dire, où la visibilité se fixe davantage sur ce qu'il y a de dramatique, de négatif, de satanique, osons le dire, eh bien, ici, dans ces lectures de la divine volonté, unies à la parole, à la Sainte Écriture, Dieu nous rappelle l'essentiel. Il nous fait voir ce que nous ne voyons pas, qu'on ne nous montre pas. Et pour cela, il ouvre nos yeux, comme dit cette parole de Saint Paul aux Éphésiens. Il ouvre l'intelligence, les yeux de notre cœur. Nous avons besoin de cela pour voir ce que l'oreille n'a pas entendu. Ce que on n'a pas encore vu et que Dieu a décidé de révéler à ceux qu'il aime, dit l'apôtre. C'est ça, ce grand message qui nous est donné et qui vient traverser notre cœur aujourd'hui encore dans ses paroles. Nous sentons notre divin vouloir prier en toi, nous sentons son souffle qui sort de toi, nous ressentons ces battements de cœur qui palpitent en nous en même temps qu'en toi. Jésus n'est plus à côté. Il est en nous. Il est notre respiration, notre souffle, les battements de notre cœur. C'est quand même magnifique, ça va tellement loin. Nous sentons la puissance de nos œuvres créatrices qui, s'alignant tout autour de nous, prient avec notre divin pouvoir que notre divine volonté puisse descendre pour régner sur la terre. Avec notre divin pouvoir. Pourquoi? Pour que notre divine volonté puisse régner le règne de Dieu sur la terre. C'est bien la volonté de Dieu, c'est bien la fin de toute chose. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, le règne de Dieu sur la terre. Plus encore, étant donné qu'en ce temps tu fais, tu n'es pas une intruse, ni quelqu'un qui, n'étant pas responsable de quoi que ce soit, ne dispose d'aucun pouvoir, mais tu as été appelé et de façon spéciale, tu as reçu la charge de faire connaître notre divine volonté et de demander que notre royaume soit constitué au cœur de la famille humaine. Aussi existe-t-il une grande différence entre celle qui a reçu de nous une charge et celle qui n'en a aucune fonction? Une mission et en même temps une vie, celle que Jésus a souhaité donner à chacun, nous faire vivre. Dans un autre passage, Jésus va révéler ce qu'il attend de nous. C'est au livre 11, le 15 mars 1912, et qui nous permet de mieux comprendre. Je parlais tout à l'heure de la consécration. Il reprend, on peut dire, cet appel à la vie divine et parle ainsi de cette manière-là. Il semble, en parlant des âmes qui ainsi entrent dans la divine volonté, qu'elles ne font rien. Mais en réalité, elles font tout. Car étant dans ma volonté, elles agissent divinement, d'une manière cachée et surprenante. Elles sont une lumière qui illumine, un vent qui purifie, un feu qui brûle, un miracle qui fait faire des miracles. Ceux qui font des miracles sont des canaux, mais la puissance réside en ces âmes. Bien sûr, ce qui montre et relativise aussi ceux qui font des miracles, ce ne sont que des canaux, mais la puissance réside, elle, en reparlant de ces âmes qui vivent dans la divinité. Elles sont les pieds des missionnaires, la langue des prédicateurs, la force des faibles, la patience des malades, l'autorité des supérieurs, l'obéissance des sujets, la tolérance des calomniés, l'assurance dans les dangers, l'héroïsme des héros, le courage des martyrs, la sainteté des saints, et ainsi de suite, évidemment. Une lumière qui illumine, agissant dans la volonté divine. C'est Dieu lui-même. Donc il est, et nous devenons pour Jésus, ses pieds, sa langue, sa parole, sa force, pour les faiblesses, sa patience, pour les malades et toutes sortes de maladies, son autorité. Elles, ces âmes-là, qui vivent ainsi et qui prient de cette manière-là, comme on l'a dit, concourt à tout le bien qui peut exister dans le ciel et sur la terre. C'est pourquoi je peux dire qu'elles sont mes hosties, des hosties vivantes et pas mortes. Une très belle parole qui nous rappelle ce que dit saint Paul, appelé à être des hosties, mais aussi quand saint Paul dit: ma vie, c'est le Christ. Des hosties. Une hostie vivante, dit Jésus, bien sûr, puisque Jésus se perpétue en nous, non pas pour rester à ne plus rien faire, mais pour que nous, en lui, lui en nous, nous devenions une hostie vivante, agissante, pensante, aimante. La vraie prière, mes amis, c'est cela. C'est uni à la Trinité. C'est ce va-et-vient dans la création, la rédemption, les œuvres de Dieu qui nous sanctifient, trouver Dieu et agir de cette manière-là en lui et avec lui. Cela suppose, c'est vrai, une grande attention, une attention de martyr, une attention continue. C'est un appel pour tous, pour chacun, mais Dieu donne sa grâce. Amen.
Chers auditeurs, c'était notre émission Que ton règne vienne. Vous étiez avec le Père Jean-Jacques Dutheine. Retrouvez cette émission en podcast sur notre site internet radiomaria.fr.